Vous écoutez, on lit pour vous.
L'anniversaire d'une maladie, un texte de Fabrice Ville, paru le 16 janvier 2024 dans la presse. En ce mois de déprime hivernale, à quelques jours de la vague de sensibilisation annuelle à la santé mentale, voici mon témoignage. À pareille date l'an dernier, j'étais en manie avec épisode psychotique. Fin décembre 2022, au lendemain d'une retraite de méditation, je me réveille en croyant que les résidents de la place sont la version réelle des X-Men. L'enseignant guide, un homme chauve, le professeur X. Dans les jours qui suivent, je m'investis d'une mission inspirée de la matrice. J'ai quelque peu calmé mes esprits pendant le temps des fêtes en attribuant mes délires à des effets inusités de la retraite de méditation. Puis, fin janvier 2023, il pleut à Montréal. Je suis convaincue d'en être la cause. Dans mon appartement, j'avais fait la danse de la pluie au son de « Make it rain » de Fat Joe et Lil Wayne. J'ai donc passé une semaine à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, autrefois l'hôpital Louis H. Lafontaine. C'est cloîtré là que j'ai célébré mon anniversaire, qui correspondait, ironiquement, à la journée belle cause pour la cause. La veille, j'ai regardé le Canadien en attendant qu'un hommage me soit rendu à la télé. Au terme de mon séjour, j'avais reçu un diagnostic « maladie affective bipolaire de type 1 ». Ça se caractérise grossièrement par un ou plusieurs épisodes de manie, accompagnés ou non d'épisodes dépressifs. C'était pour moi une surprise, parce que je n'avais jamais soupçonné dans ma vie la bipolarité, généralement diagnostiquée au plus tard au début de l'âge adulte. Aujourd'hui, après une terrible année riche en découvertes, je m'estime chanceux et privilégié de bien me porter. Pourquoi donc ce coming out? Je ne m'y sens pas obligé. En fait, quelques personnes m'ont déconseillé de le faire, considérant une certaine stigmatisation persistante. À mon avis, voilà justement une raison de prendre la parole afin que la maladie mentale soit davantage normalisée. À 40 ans, près de 50% de la population canadienne souffre ou a souffert d'une maladie mentale, souvent en cachette, comme si tout le monde souffrait tout seul. Or, c'est parce que les maladies mentales sortent des tabous que j'ai moi-même accepté mon diagnostic relativement ouvertement. Grâce à des personnes comme Varda Étienne et Michel Mpambara, la bipolarité m'était vaguement familière. À mon tour, je souhaite contribuer à faire tourner la roue de la parole afin que les personnes et les familles vivent la maladie mentale avec plus d'informations et moins de honte. Je ne souhaite pas circonscrire ma vie publique à la promotion de la santé mentale. Par contre, il me semble qu'elle a un lien avec la plupart des enjeux sociétaux planétaires. Comme l'expérience de la maladie influence mes opinions sur ces enjeux, je préfère être transparent. D'emblée, je constate que la médecine traditionnelle traite la bipolarité strictement comme une pathologie. Sans rejeter la psychiatrie, j'ai l'intime conviction que certains pans du phénomène lui échappent, d'autant plus que ma crise s'est déclenchée à la suite d'une aventure spirituelle encore mystérieuse pour moi. En décantant le tout, une question demeure. Dans une ère où la pensée rationnelle domine, quelle place pour le sacré? Plus tangiblement, j'ai réfléchi au fait que notre sort dépend des autres et de notre environnement. J'ai le souvenir encore saillant de cette migrante haïtienne aux urgences de l'Institut de santé mentale. Dans sa recherche de refuge, quels événements l'avaient menée là? Et quelles ressources pour elle dans les circonstances? Au repas, j'ai eu une réflexion similaire, alors que la nourriture, infecte pour moi, semblait délicieuse pour mes compagnons de table les plus poqués, ceux qui avaient besoin d'une maison de transition après l'hospitalisation, faute de logis. De mon côté, mes proches ont été d'un précieux soutien. À toutes les étapes de la crise, ma copine a fait preuve d'une compréhension et d'un amour sans bornes. Mes parents, quant à eux, m'ont offert leur présence attentionnée, loin des pires préjugés. Tous les trois étaient là pour m'épauler au Palais de justice de Montréal lorsque l'Institut a sollicité au tribunal une ordonnance de garde visant à poursuivre l'évaluation de mon état. C'était en salle 14,11, la même où j'ai représenté un hôpital dans des dossiers similaires plus de 10 ans auparavant. L'éducation aura joué en ma faveur pour me débrouiller avec ces procédures, mais aussi pour comprendre la maladie et naviguer dans le système, que ce soit pour raccourcir des délais de rendez-vous déraisonnables, insister sur des soins ou remettre en question des traitements. Alors que notre société échappe parfois à des vies, l'ensemble de mes privilèges, éducation, réseau de proches, stabilité financière, aura peut-être sauvé la mienne, d'autant plus que la manie de janvier a cédé sa place à la dépression en février. Mon épuisement extrême du jour rencontrait mon insomnie tout aussi extrême la nuit. Je n'étais confortable ni assis, ni debout, ni couché, nulle part. C'était la première fois que j'avais des pensées suicidaires, sans raison autre que l'envie d'arrêter cette souffrance rampante partout dans mon corps. Je me suis senti loser chaque fois que j'ai composé le 1-866 appel, mais je n'ai regretté aucun appel. Des encouragements d'amis au sourire de mes neveux et nièces, bien des bonheurs m'ont aidé à traverser cet enfer. Entre autres, la musique a été un magnifique refuge. L'album Inscape d'Alexandra Streliski, pour me calmer et m'insuffler une dose de beau. La chanson Invaincue de Stroma, pour célébrer que j'étais en vie et, pour m'encourager à la poursuivre, la chanson « Carry On » de mon frère, Imposs. Aux personnes qui traversent une rude épreuve, je dirais comme lui, « Quand les cloches carillonnent, mais ton cœur dit « Carry On ».»« Carry On ». Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, appelez le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. C'était L'anniversaire d'une maladie, un texte de Fabrice Ville, paru le 16 janvier 2024 dans La Presse.
John Pinault, Jean-Charles Pietachaud et André Désir, trio de rock. Un texte de Jean-Benoît Nadeau paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. Anticosti a gagné. Depuis le 17 septembre 2023, elle est inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir bien failli au milieu des années 2010, devenir un lieu de prospection pétrolière, Anticosti a obtenu le label UNESCO en 7 ans, alors qu'il en faut 12 en moyenne. Récit d'une victoire par l'entremise de 3 personnages qui ont joué un rôle central. Celui qui en a rêvé. Lorsque John Pino devient maire de l'île d'Anticosti en avril 2016, ce passionné de pêche au saumon et de plongée est convaincu depuis longtemps que l'île pourrait figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'été, quand le gouvernement du Québec autorise les pétrolières à faire de la prospection par fracturation hydraulique, il refuse de voir l'île devenir un nouveau Far West. Dire non, c'est une chose, mais il faut pouvoir dire oui à quelque chose. Et ce quelque chose s'est cristallisé autour du patrimoine mondial. Le maire forme alors un comité chargé d'élaborer la proposition et de coordonner les appuis d'une vaste coalition qui inclura les Inuits, les maires de la MRC de Mangani, ainsi que les grands groupes écologistes tels Nature Québec et Équiterre. Soumettre une candidature comme la nôtre, ça coûte 3 millions de dollars. Québec débourse plus de 100 millions pour racheter les concessions pétrolières et y créer une réserve de biodiversité. Et, condition essentielle, Ottawa inscrit Anticosti sur sa liste indicative canadienne des sites du patrimoine mondial en janvier 2018. Au comité, c'est d'abord la déception. Ottawa n'a retenu que le critère géologique, alors que le dossier évoquait les canyons, une histoire maritime mouvementée, 450 naufrages, une terre ancestrale Inuit, une écologie particulière. C'était un mal pour un bien, dit aujourd'hui l'ex-maire, parce qu'un dossier de candidature est très complexe et que le critère scientifique, aisément démontrable, nous simplifiait énormément la vie. Celui qui a dit Mohat, M-A-U-A-T, non en Inuit. Sans le dépôt d'une demande d'injonction contre les pétrolières, en juillet 2016, par le Conseil des Inuits d'Equanichit, l'idée même d'inscrire Anticosti au patrimoine mondial serait morte dans l'œuf. Et l'année suivante, victoire! Le gouvernement du Québec soustrait l'île à toute exploration pétrolière. Le projet UNESCO se discutait et le Conseil trouvait l'idée très intéressante, raconte le chef Inuit Jean-Charles Pietachaud, qui parvient à obtenir le soutien écrit de tous les chefs de la nation Inuit. Ça rejoignait nos valeurs et notre désir de protéger notre territoire ancestral. Mais sa plus grande fierté, c'est avoir tissé des liens solides avec ses voisins allochtones. Pour moi, le plus important est d'avoir réussi une concertation avec les municipalités. Jean-Charles Pietachaud, à la tête de sa communauté depuis 1991, se réjouit que ce rapprochement ait permis de débloquer d'autres dossiers, notamment pour faciliter l'embauche d'Inuits au parc national d'Anticosti, le plus gros employeur de l'île. C'est bien d'être connu et reconnu, mais maintenant que nous disposons d'une ressource touristique hors pair, nous aurons un devoir de vigilance envers ce monument naturel. Celui qui l'a étudié. Anticosti est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses nombreux fossiles. Ces strates de calcaire constituent un témoin exceptionnel de la première grande extinction de masse, qui avait entraîné la disparition de 85 % des espèces il y a 445 millions d'années, explique le géologue André Desrochers, directeur scientifique du comité responsable de la candidature de l'île. Sur les 40 sites connus témoins de cette période dans l'ensemble du monde, seul Anticosti offre une vision quasi complète de la période avant, pendant et après l'extinction. Chaque printemps depuis le milieu du 19e siècle, des géologues de partout débarquent sur la plus grande île québécoise, raconte cet ancien professeur de l'Université d'Ottawa, qui en a fait son principal sujet d'étude dès 1977. L'intérêt des scientifiques s'est accentué depuis 20 ans parce que le site nous permet de comprendre ce qui déclenche les extinctions de masse et les processus de rétablissement de la vie, sujet qui préoccupe tout le monde actuellement. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial s'accompagne d'obligations, notamment quant à la surveillance. Les touristes seront autorisés à prélever des fossiles en certains lieux et à certaines conditions. Et, souligne-t-il, il faudra gérer la principale menace, l'érosion, qui grignote en moyenne 10 cm de littoral par an. L'inscription n'est pas une fin en soi, mais un début, dit le géologue, impliqué dans la mise en place d'un organisme de gestion permanente du site pour sa valorisation et sa protection. C'était John Pinault, Jean-Charles Pietachaud et André Désir, trio de rock. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité.
Que sont nos hivers devenus? Un texte de Dany Turcotte, paru le 14 janvier 2024 dans La Presse. Je suis né à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis ce que l'on pourrait appeler un nordique. L'hiver est dans mon ADN tout autant que les lettres A, D et N sont incrustées dans mon prénom. Patiner, glisser, pêcher sous la glace, faire du ski doux, déneiger et aimer avoir le vent froid dans la face font partie de mes activités d'hiver depuis toujours. Mes tout premiers souvenirs sont glacés. En première année de l'école primaire, j'avais hérité du prestigieux rôle de tenir la porte aux autres après la récréation. Déjà naturellement curieux, j'ai osé coller ma langue sur la poignée de métal. Il faisait moins 20 degrés Celsius. Une dévouée enseignante a dû aller chercher un verre d'eau chaude pour briser l'alliance entre la porte et ma langue, une première date marquante avec l'hiver. J'ai aussi ce souvenir de très grand froid qui me hante encore. Une journée à moins 40 dans la bergerie de mon frère Michel au Saguenay. Les 100 moutons s'époumonnent à bêler pour manger. Chaque balle de laine à quatre pattes produit une intense vapeur. Du côté des humains, nos respirations tombent instantanément en flocons à la sortie de nos bouches. Ce jour-là, j'ai dû déglacer ma portière d'auto avec une machine à pop-corn comme source de chaleur. Le vrai hiver de force. Avec le réchauffement du climat, nos saisons froides sont de plus en plus chaudes et courtes, les précipitations de moins en moins glacées et fréquentes. Se dirige-t-on vers la disparition de nos hivers? Ces légendaires histoires de froid sibérien vont fondre comme crème molle au soleil. elles finiront probablement par n'être chuchotées que par quelques vieux dont je serai. Elles vont s'échouer dans les oreilles d'une préposée en CHSLD, trop exaspérée par son horaire contraignant pour écouter. Certains en seront bien contents, d'autres en souffriront. Un rapport bipolaire. Notre rapport avec l'hiver est bipolaire. Notre attachement navigue entre amour profond et haine viscérale. Chaque automne, on est là à surveiller l'arrivée graduelle de l'hiver. C'est une récurrente marque du temps qui passe. Regarder les feuilles se colorer graduellement pour finir par tomber complètement. Assister au spectacle du paysage qui tourne tranquillement au brun pour finalement geler et se couvrir de neige. Quand on sait que tout reprendra vie dans quelques mois, on se dit que c'est tout de même un phénomène hors du commun. Le sentiment de sécurité ressenti à surveiller une grosse tempête par la fenêtre quand tout le monde est à l'abri, au chaud, est incomparable. Pour plusieurs, c'est une période qui peut aussi sembler bien lourde. La lumière qui décline de quelques minutes quotidiennement est, à mon avis, encore plus difficile pour le moral que le froid. Ce manque de clarté, sur une longue période, vient tarir nos doses de sérotonine et nous pousse vers une morosité saisonnière que même un tour de patin ne peut guérir. Imaginez, au début de l'été, le temps de clarté tourne autour de 16 heures par jour, alors que fin décembre, il dépasse à peine les 8 heures. Un déficit tel qu'on pourrait aller jusqu'à l'appeler du temps perdu. Il y a deux clans, ceux qui mordent dans l'hiver et ceux qui se font mordre par la saison froide. Les mordus sont facilement repérables. Ils se retrouvent annuellement ensardinés dans ces avions qui entreprennent le même voyage que les voiliers d'Oie Blanche et de Bernache, en maugréant à l'unisson cette saison maudite. Les villages vacances du Sud se font l'immense plaisir de les accueillir, tout sourire, en leur brandissant un verre de mousseux cheap, pour souligner qu'ils sont, pour un temps, en libération inconditionnelle de l'hiver. Enfin, de vraies chaudes journées, confortablement avachies sur une chaise longue. Cette chaise, qu'ils ont pris bien soin de venir réserver à l'aube, en y déposant simplement une serviette, s'assurant ainsi d'avoir un lieu pour s'échouer près du bar de la piscine. Du bon temps de qualité, passé principalement à badiner sur la météo du Québec, consulter sur un téléphone tout en sirotant une énième margarita. Des minutes volées à l'hiver, le juste retour de ce temps perdu. De l'autre côté, il y a ceux qui en mangent, les adorateurs de bas mercure, les animaux à sang froid, toujours le pompon bien dressé. Prêts à chausser patins ou ski, ils ont les joues rouges de novembre à avril. Ils n'en finissent plus de profiter de toutes ces belles journées au pays des glaces. Malheureusement pour ces escapades du traîneau, la saison perd de son mordant d'année en année. Les centres de ski n'en finissent plus d'inventer de la neige. Les patinoires dégèlent plus souvent qu'elles ne gèlent. Nos Noëls sont désormais plus bruns que blancs. On pourrait même en conclure que nos hivers sont sous respirateur. Peut-être que la seule façon pour les prochaines générations d'avoir accès à ce qu'était l'hiver sera de regarder mon oncle Antoine, d'admirer des peintures de Jean-Paul Lemieux ou de réciter par cœur « Soir d'hiver » d'Émile Nelligan. En attendant, pour la célébrer avant sa disparition définitive, j'irai marcher dans la neige en fredonnant « Mon pays » de Gilles Vigneault, chanson qui sera probablement un jour considérée comme une curiosité culturelle par les anthropologues. Ils se demanderont « Mais qu'est-ce que voulait bien dire le monsieur au col roulé quand il chantait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ?» Qui est Dany Turcotte? Originaire du Saguenay, Dany Turcotte se fait d'abord connaître comme humoriste au sein du groupe Sanguin au milieu des années 1980. Après la dissolution du groupe, il poursuit sa carrière humoristique aux côtés de son complice, Dominique Lévesque. De 2004 à 2021, il est le fou du roi de Guilla Lepage à Tout le monde en parle. Il est l'animateur de La Petite Séduction de 2005 à 2017. C'était « Que sont nos hivers devenus », un texte de Dany Turcotte, paru le 14 janvier 2024 dans la presse.
Trois applications pour économiser gros à l'épicerie. Un texte de Dominique Lamy, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Food Hero. Les marchands participants affichent des articles dont la date de péremption approche ou qui ont été congelés avant celle-ci. Des économies de 25 % à 50 % sont monnaie courante. L'épicerie se fait à la maison, les produits achetés sont ensuite récupérés auprès du commerçant. Idéal aussi pour limiter le gaspillage alimentaire. Rebee. L'application permet de consulter les circulaires en cours et celles à venir. Elle facilite la comparaison des prix et le choix du commerce à visiter pour économiser sur l'article recherché. Mention aussi à Flip, une solution tout à fait comparable. À utiliser comme preuve au comptoir caisse pour égaler le prix d'une chaîne concurrente. Checkout 51. Ce service permet d'obtenir des remises à l'achat de produits admissibles. L'utilisateur doit ajouter les offres qui l'intéressent à sa liste, procéder à l'achat des produits dans n'importe quel magasin et envoyer ensuite la photo de son reçu de caisse dans l'application après avoir coché les articles pour lesquels réclamer. Le consommateur peut obtenir sa remise lorsque celle-ci atteint la somme minimale de 20 $. C'était Trois applications pour économiser gros à l'épicerie, un texte de Dominique Lamy, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.